VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Soudan du Sud, de nouveaux affrontements opposent les forces loyalistes et les ex-rebelles dans le sud-ouest du pays, non loin des frontières de l'Ouganda et de la RDC. Le point avec Nanit Talani.
Les combats entre les forces gouvernementales du président Salva Kiir et les hommes fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar ont éclaté à deux endroits proches de la ville de Yei, à plus de 150 km au sud-ouest de Juba. Selon Stéphane Ladou, ministre de l'Information de l'État de Yei, il se déroule à Mugo, une localité au sud de Yei située le long de Kaya Highway, un axe routier important menant vers l'Ouganda et une des principales voies d'accès vers Juba depuis l'étranger. D'autres combats sont signalés à Kimba, au sud-ouest de Yei, le long d'une route menant vers la République démocratique du Congo. En dépit d'un accord de paix signé en août 2015, les armes ne se sont jamais complètement tues dans le pays. Ces dernières semaines, après les combats de Juba, d'autres accrochages ont été rapportés entre loyalistes et ex-rebelles, non loin de la capitale ou encore dans le nord.
En RDC, l'ONU invite les responsables politiques au consensus sur le processus électoral à 4 mois de l'échéance du mandat du président Joseph Kabila. L'organisation internationale a lancé cet appel alors qu'une coalition d'ONG congolaises demande à l'ONU de retirer son soutien à la Commission nationale électorale indépendante CENI, qu'elle accuse de faire le jeu du pouvoir. Le point avec Eddy Issango.
Au-delà des questions techniques et logistiques, il faudrait que les acteurs politiques congolais de la majorité et de l'opposition puissent s'entendre pour s'écouter, discuter et trouver un consensus sur la façon dont ils veulent conduire les processus électoraux au Congo et communiquer cette information à leurs partenaires, a déclaré à Kinshasa les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mamadou Diallo. Pour lui, le consensus permettra à l'ONU de déterminer les niveaux, les rythmes et la séquence de son accompagnement au processus électoral. Mais ce dialogue a rappelé que l'ONU a un rôle d'accompagnement et de soutien, mais pas de substitution aux institutions congolaises. Les élections devant se tenir cette année ne pourront avoir lieu qu'en 2017, a récemment déclaré le président de la CENI, qui a lancé début juillet l'enrôlement des électeurs. L'opposition a récusé les facilitateurs désignés par l'Union africaine pour les dialogues politiques et accuse le président Joseph Kabila de manœuvrer pour rester au pouvoir au-delà de 2016 sans élection. M. Kabila ne devrait pas se représenter pour un troisième mandat selon la Constitution.
On reste en RDC, Aïda Sawyer, indésirable à Kinshasa, la capitale. La chercheuse principale de l'Organisation américaine de défense des droits humains, Human Rights Watch, dans le pays, a vu son visa de séjour révoqué. Sa collègue Anneke van Woudenberg, directrice du plaidoyer auprès de la division Afrique de Human Rights Watch, accuse le pouvoir congolais de vouloir museler les défenseurs des droits de l'homme, ainsi que tous ceux qui s'opposent au prolongement du mandat du président Joseph Kabila. On l'écoute.
Ce n'est pas une question d'un visa qui est expiré, comme ils ont fait avec des activistes congolais. Maintenant, ils sont en train d'expulser ou de forcer des activistes des droits de l'homme internationaux de quitter le pays aussi et de ne pas parler de la situation des droits humains au Congo. Parce que Mme Sawyer n'est pas la première. En fait, l'année passée, ils ont expulsé le directeur des droits humains de la Nations Unies, M. Scott Campbell. Il y a quelques mois, ils ont expulsé un autre chercheur qui aussi a documenté plusieurs violations des droits de l'homme, M. Jason Stearns. Le mois passé, ils ont expulsé deux activistes de l'ONG Global Witness. Donc, ce n'est pas seulement Human Rights Watch qui est ciblé.
Anneke van Woudenberg de Human Rights Watch. Par ailleurs, Human Rights Watch a demandé aujourd'hui au gouvernement angolais d'enquêter sur la mort samedi d'un adolescent de 14 ans abattu par des militaires. Selon Human Rights Watch, Rufino Antonio, l'adolescent en question, a été mortellement touché au cou par une balle alors qu'il manifestait contre la démolition du quartier populaire de Zango dans la banlieue de Luanda, la capitale, pour la construction d'une zone industrielle. En RCA, Jean-Francis Bozizé, finalement remis en liberté provisoire. Le fils de l'ancien président centrafricain François Bozizé a été libéré hier après avoir été entendu par un juge au tribunal de Bangui. Il avait été arrêté le 5 août et maintenu pendant 4 jours à la SRI, la section de recherche et d'investigation de Bangui. Notre correspondant Freeman Sipila fait le point.
Après une première audience avortée lundi, c'est finalement tard dans la soirée du mardi que Jean-Francis Bozizé a été auditionné par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bangui. Après avoir pris connaissance des charges qui pèsent contre lui, l'ancien ministre délégué de la Défense sous le règne de son père François Bozizé est autorisé à recouvrer provisoirement sa liberté. Jean-Louis Opalayan, un de ses avocats, qualifie d'un dossier vide les faits reprochés à son client.
Il doit attendre une convocation et on reviendra plus tard pour qu'il puisse donner sa version des faits qu'on lui reproche par rapport aux infractions dont la teneur lui a été donnée. Et il a sa version des faits qu'il n'a pas donnée aujourd'hui. Il s'est réservé de le faire dans les jours à venir. Pour le moment, je peux dire que c'est un dossier qui est vide.
Placé sous contrôle judiciaire, Jean-Francis Bozizé est interdit de toute sortie de la capitale centrafricaine. Il est privé de ses libertés fondamentales et devra s'exempter de porter une arme. Tout comme son père, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour assassinat, arrestation arbitraire, séquestration, détournement des deniers publics et actes de nature à compromettre la paix publique. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, l'armée malienne a annoncé aujourd'hui avoir récupéré les corps de 5 soldats portés disparus depuis une attaque lundi dans la région de Mopti, dans le centre du pays. 4 corps ont été retrouvés mardi et un 5e ce matin dans le secteur de Tenenkou, a affirmé à l'AFP un responsable du service de communication de l'armée malienne. À ce stade, a ajouté ce responsable, on ne peut pas préciser la cause de la mort. Nos services examinent encore les dépouilles, a-t-il ajouté, sans plus de détails. Tenenkou, à environ 90 km à l'ouest de Mopti, chef-lieu de région, est situé dans le delta intérieur du Niger. Ces 5 soldats étaient portés disparus depuis l'attaque contre leur position lundi, qui avait été précédée d'une embuscade dimanche contre un convoi de ravitaillement, d'après plusieurs sources militaires maliennes. Une des sources a attribué l'attaque au groupe djihadiste malien en Sardine. Ansardine avait revendiqué une précédente attaque meurtrière contre l'armée à Nampala dans la région de Mopti le 19 juillet. Selon le bilan officiel, 17 militaires avaient été tués, 37 blessés et 6 sont portés disparus depuis cette date. Afrique du Nord maintenant, 6 pays occidentaux exigent que le contrôle de toutes les installations pétrolières en Libye revienne sans réserve ni délai et sans condition préalable au GNAM, le gouvernement d'entente nationale, les autorités légitimes du pays, les gouvernements de l'Allemagne, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni ont fait une déclaration en ce sens. La campagne présidentielle aux États-Unis maintenant avec une nouvelle controverse autour de Donald Trump, l'aspirant républicain à la Maison-Blanche. La déclaration qu'il a faite en accusant la candidate démocrate Hillary Clinton de vouloir abolir le 2e amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit de porter les armes a provoqué un véritable tollé. Jean-Roger Bion.
S'adressant à des partisans hier en Caroline du Nord, Donald Trump a laissé entendre que seuls les défenseurs du port d'armes étaient à même de stopper son adversaire démocrate, Hillary Clinton, ou les juges qu'elle pourrait nommer à la Cour suprême américaine. Cette déclaration a aussitôt provoqué un nouveau tollé. Elle a en effet été interprétée par de nombreux médias et observateurs comme un appel à user de la violence pour stopper Mme Clinton ou des juges. Si elle a la possibilité de choisir ses juges, il n'y a rien que vous puissiez faire, les gars, a dit M. Trump. Quoique avec le second amendement, peut-être qu'il y a une solution, je ne sais pas, a-t-il ajouté, laissant sa phrase en suspens. Dans un communiqué, l'équipe de campagne de Donald Trump a qualifié les médias de malhonnêtes, affirmant que M. Trump voulait simplement dire que le groupe très soudé des défenseurs des droits du port d'armes empêcherait Mme Clinton d'être élue en votant massivement pour Donald Trump.
Et pour terminer, les médias russes ont salué comme une avancée majeure la visite en Russie du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a rencontré hier son homologue russe Vladimir Poutine après des mois de crise. Cette rencontre a permis aux deux dirigeants de tourner une page tragique, écrit le quotidien proclamé Izvestia, qui note que ni Vladimir Poutine ni son homologue turc n'ont évoqué le bombardier russe abattu par l'aviation turque au-dessus de la frontière syrienne en novembre, élément déclencheur de la crise entre les deux pays. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.